J'espère que vous allez bien ce matin. Et je salue tous ceux que j'ai pas pu saluer aujourd'hui ou que j'ai pas pu voir hier. Je suis vraiment contente d'être là. J'avais beaucoup entendu parler de cette église. Très très honorée aussi d'être invitée par le pasteur Eric. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas hein, en fait hein. Pas si bien que ça. Donc je m'appelle Elvira Gris, je vis gris comme la couleur, chez RIS. Je vis actuellement à Saint-Étienne, ça fait à peu près, je dirais, 5 ans. Et donc je suis à mi-temps, donc le pasteur de l'église Torrent de Vie qui se trouve au Puy-en-Velay. C'est une ville qui est à peu près à 1 heure de Saint-Étienne, hein, en gros. Et donc aussi de la famille des églises de la Fédération Baptiste. Voilà. Je suis aussi donc missionnaire à mi-temps avec la mission biblique. Pour un temps, en tout cas. Et mon premier ministère, en tout cas, c'est par là que j'ai commencé, eh bien, c'est le ministère de la louange par la musique, et je précise par la musique, puisque la louange, c'est beaucoup plus vaste que simplement l'objet de la musique, comme on a pu le voir hier. Et ce matin, ce que je voulais partager avec vous, donc c'est une petite exhortation, je voulais parler avec vous, partager le texte de Lamentations 3, le texte écrit par Jérémie, que vous devez aussi probablement connaître. C'est un texte assez connu. Il vous est probablement déjà arrivé, vous avez probablement déjà eu l'impression d'être tellement au bout du gouffre, au bout d'une situation tellement complexe. Peut-être avoir l'impression d'être coincé un peu comme dans un lieu très étroit. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous vous demandez, mais comment vous allez sortir de là? Comment vous allez faire pour vous en sortir? Où est le Seigneur dans toute cette affaire? Que fait-il? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il a les regards fixés ailleurs? Parfois, ça peut aussi arriver quand on est chrétien, n'est-ce pas? Jérémie, le prophète Jérémie, a vécu ce genre de situation en réalité pratiquement toute sa vie. C'est un prophète qui a été appelé à l'âge de 17 ans. Et lorsque Dieu l'a appelé, il lui a donné le fardeau d'être celui qui allait porter la parole, les prophéties pour le peuple d'Israël. Et à cette époque-là, le peuple d'Israël était un peuple vraiment têtu. En réalité, c'est un peuple qui a été très longtemps têtu. Jérémie est le personnage à qui on a attribué le surnom de prophète qui pleure. Parce qu'il a pleuré des larmes de tristesse, non seulement parce qu'il savait, il connaissait le sort d'Israël, mais parce qu'il savait aussi que le Seigneur n'allait pas se détourner de ce qu'il allait annoncer. J'aimerais vous lire donc ce livre, ce fameux livre de Lamentations 3, et comme j'ai l'habitude de le faire aussi dans ma communauté et partout où je vais demander à 2 personnes qui ont leur Bible, parce que vous avez vos Bibles, je suis sûre, hein, et bien de lire le texte. Juste un peu de contexte pour vous mettre dedans, dans le texte. Le prophète Jérémie a vécu dans les derniers jours en fait de la nation d'Israël au bord de l'effondrement. Il a été le dernier prophète de Dieu qui a prêché à ce qu'on appelle donc le royaume du Sud, qui était à l'époque constitué des tribus de Juda, d'accord, et la tribu de Benjamin. Et auparavant, Dieu avait averti Israël à plusieurs reprises de cesser leur comportement d'idolatrie. Il avait prévenu Israël, mais ils ont refusé d'écouter. Alors, il les a séparés. Il a séparé, si vous voulez, les 12 tribus. Certaines sont allées donc au nord et d'autres sont arrivées au sud. Et c'est dans ce contexte que Dieu a envoyé Jérémie pour donner à la tribu de Juda le dernier avertissement avant d'être expulsé dans un autre pays. Israël, vous avez dû probablement le remarquer, est un peuple qui a souvent, très souvent, très souvent désobéi au Seigneur. Il suffit de regarder même lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte et qu'ils se sont retrouvés dans le désert avec Moïse. Ils étaient désobéissants, ils étaient fatigants, toujours en train de se plaindre. jamais contents de ce qu'on leur donnait. Parfois, il y a des chrétiens comme ça. On se plaint. Et pourtant, le Seigneur fait énormément de choses. Israël, si vous voulez, c'est l'image, parfois, du croyant qui préfère s'auto-satisfaire avec les choses qui sont en dehors de Dieu. C'est l'image, parfois, du croyant qui préfère rejeter la volonté de Dieu pour sa vie, pour pouvoir expérimenter sa propre volonté. N'est-ce pas ce mal qui est né durant le jardin d'Éden à travers les premiers hommes? Et vous savez, l'homme préfère très souvent être dépendant de Dieu, plutôt être indépendant, c'est plutôt ça que je veux dire. Mais quand il y a ce comportement qu'on adopte, eh bien, on ne pense parfois pas aux conséquences qui seront par la suite, qui vont arriver par la suite. Et il y a forcément des conséquences qui arrivent par la suite. Là, le Seigneur s'était adressé à la tribu de Juda. Depuis longtemps, ça avait été prophétisé. Si vous continuez à agir ainsi, si vous continuez à faire ceci, si vous continuez à mettre ma loi de côté, si vous continuez à désobéir à mes commandements, voilà ce qui va arriver. Et lorsque ça arrive, on cherche le Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi suis-je dans cette situation? Le monde vit aussi ce genre de choses, ce genre de situation. Le monde part à la dérive actuellement parce qu'il est éloigné de Dieu. Parce qu'il est éloigné des commandements de Dieu, de la loi, de la pensée divine. Et on est là parfois en train de se débattre pour chercher des solutions, pour sortir du chaos, pour sortir des conséquences qu'on a parfois nous-mêmes créées. Et pourtant, le Seigneur ne ferme jamais sa porte. C'est ça qui est extraordinaire avec notre Dieu. Il ne ferme jamais sa porte. Il est toujours prêt à nous accueillir de nouveau, si on fait le bon choix, bien sûr, de la repentance. Dans Jérémie 4, à partir du verset 1, il est dit ceci. « Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Tu ne seras plus errant. » Jérémie a prophétisé encore, en leur faisant comprendre que leur problème était dû à l'absence de la crainte de Dieu. Mais Israël s'est entêté dans ses mauvaises voies. Le péché a endurci le cœur d'Israël. Ah, c'est dramatique quand ça arrive. C'est dramatique. Autrement dit, Dieu a parlé, il a parlé, et il a parlé encore, au travers de la bouche de Jérémie, mais Israël a continué son chemin. Vous savez, la repentance, c'est l'acte où l'on décide de faire demi-tour. On était sur une voie, et on décide de se retourner pour choisir l'autre voie, la meilleure des voies. Et on continue vers cette voie. C'est cela la vraie repentance. La vraie repentance, ce n'est pas simplement dire « Bon Seigneur, c'est vrai, bon j'ai fait ça, pardon. » Et continuer dans ce qu'on était déjà en train de faire. Ça fonctionne pas. Face à cette situation, Jérémie, qui portait ce gros fardeau-là, a commencé à se lamenter. Je vous laisse imaginer un prophète qui a prophétisé pendant près de 40 ans et qui n'a jamais vu un changement de cœur devant son propre peuple. Je vous laisse imaginer la situation. Prophétiser, prêcher, apporter la parole pendant 40 années et ne rien voir du tout. Alors le prophète s'est lamenté. Il était dans la détresse. Il le dit, on le voit. Il dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres. » C'est fort les mots qu'il utilise. « Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. »
Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison, dit-il. Et de douleur. Sa douleur était tellement forte. Elle était tellement aiguë. Que voici les mots que Jérémie a exprimés. Parce que parfois, quand on est dans des situations difficiles, parfois, lorsqu'on est dans des situations où on ne voit plus rien, on a l'impression d'être dans le noir, dans les ténèbres, comme il le dit. On se dit, mais comme j'ai dit tout à l'heure, où est Dieu dans tout ça? Pourquoi est-ce que je vis tout ça? Là, je m'adresse aux chrétiens qui peut-être aussi se retrouvent dans les ténèbres, entre guillemets, dans les épreuves, se retrouvent dans une situation où ils voient la mer se déchaîner, la tempête qui fait rage, et se demandent, mais où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi permet-il que je vive cette situation? S'il m'aime tant, s'il a tant d'amour pour moi, s'il a tant aimé l'humanité, s'il est le Dieu de fidélité, s'il est le Dieu de bonté, pourquoi me fait-il vivre tout ça? Et vous savez, je ne l'ai pas abordé hier parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps, mais quand je donnais l'enseignement sur le ministère de chantre, je disais que le rôle du chantre, c'est d'invoquer l'Éternel, de le célébrer et de le louer. Et vous savez, dans le terme invoquer, il y a la notion de rappeler à son souvenir, de rappeler à sa mémoire ce que le Seigneur a fait dans le passé. Lorsqu'on évoque Dieu, c'est parce qu'on a expérimenté déjà quelque chose. Et Israël avait déjà expérimenté quelque chose. Cette grande délivrance qu'ils avaient vue de leurs yeux, que les pères ont pu relater, Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui l'a refermée sur les pharaons, sur l'ennemi, Dieu qui a permis que la manne descende du ciel, toutes ces choses-là, ils ont vu. Le Seigneur nous invite aussi, lorsqu'on est dans la détresse comme Jérémie, lorsqu'on est dans une tension forte, à l'invoquer. À l'invoquer, à s'asseoir, à réfléchir, et à se souvenir de ce qu'il a fait dans le passé. Et il y a tellement de choses qu'il a fait dans le passé. Si on s'assoit pour réfléchir, on pourrait noter énormément, énormément de choses. Regardez ce qui se passe à partir du verset 18. Quelqu'un peut lire le verset 18? Si vous lisez attentivement tout le texte, vous verrez que à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, Jérémie ne parle jamais, ne prononce jamais le nom de Dieu. On a l'impression qu'il parle d'un inconnu. Il dit « il m'a fait vivre ça, il a brisé mes os, il m'a donné du poison, il m'a mis dans la douleur ». Il ne prononce jamais le nom de l'Éternel. Et à partir du verset 18, il commence. Et il dit par la suite, et c'est ça qui m'intéresse aussi ce matin, il dit, je répète ce que tu as lu, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais regardez le contraste là. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Repasser en son cœur, en sa mémoire. C'est quoi? Voici ce qui me donnera de l'espérance, dit-il. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et regardez la déclaration là. « Oh, que ta fidélité est grande, dit Jérémie. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Amen. Ce matin, je veux vraiment nous aider, nous exhorter à comprendre la portée de ce que le Seigneur attend de nous lorsque nous sommes comme dans une situation comme celle de Jérémie. Bien sûr, on ne vivra pas exactement ce que Jérémie a vécu, mais on vivra tous des choses qui sont compliquées si on a réellement accepté le Seigneur. Parce que lorsqu'on est dans le Seigneur, on est aussi persécuté. Lorsqu'on est dans le Seigneur met aussi sur nous, dans nos vies, des fardeaux. Lorsqu'on est dans le Seigneur, on vit des choses pour pouvoir aussi être à un moment donné des modèles, des exemples, des personnes qui seront capables d'aider d'autres personnes. Mais si un chrétien ne vit rien, Si un chrétien est paisible, tranquille, tout va bien, c'est la vie en rose, tout se passe bien chaque jour. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Le Seigneur veut nous former aussi à travers les épreuves. C'est paradoxal, mais il a aussi choisi les épreuves, la douleur, les difficultés pour nous former, pour nous sanctifier. Et dans ces moments, il attend de nous que nous soyons des adorateurs, des personnes qui vont venir à lui, des personnes qui proclameront qu'il est bon. Oui, que quel que soit ce qui se passe, il est bon. Pourquoi il est bon? Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui n'a pas changé, il demeure le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit la parole de Dieu. Il n'y a en lui aucun nombre de variations, nous dit la parole de Dieu. C'est ce qu'il veut nous apprendre, à lui faire confiance et à proclamer qu'il n'a pas changé. Et c'est ce que Jérémie a fait. Il est passé de la pure détresse à quelqu'un qui était concrètement qui était dans la dépression. Hein. Peut-être même qu'il voulait se suicider à ce moment-là, on ne sait pas, c'est possible, c'est très probable. Il est passé de ça à quelqu'un qui est revenu, qui s'est relevé et qui a dit « Mais je veux proclamer, mais je veux déclarer que l'Éternel est bon et que sa fidélité dure à toujours. Ses compassions se renouvellent chaque matin. » Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que nous sommes capables aussi, dans des moments de difficulté énorme, atroce, de déclarer ces paroles? Bien sûr, si on déclare ces paroles, les épreuves sont toujours là. Elles ne sont pas parties. Et même quand on se repent de nos fautes, de nos péchés, etc., et qu'il y a des conséquences, elles ne partent pas comme ça, parce que les conséquences, c'est les conséquences. Mais on a au moins l'assurance que l'Éternel est là et qui nous aide à traverser la vallée de l'ombre de la mort, comme on l'a dit tout à l'heure à travers le psaume 23 et comme on l'a chanté aussi. Très souvent, et ça c'est une parenthèse, je me demande à moi-même aussi, hein, est-ce qu'on réalise ce qu'on chante les dimanches ou dans nos cultes personnels hein, aussi hein, à la maison, ou est-ce qu'on réalise les paroles qu'on prononce? Quand on dit « L'Éternel est mon berger », je ne manquerai de rien. Quand je dis que l'amour de Dieu ne changera jamais à mon égard, est-ce qu'on le pense? Est-ce que réellement on le pense? C'est vrai que c'est dit dans les chants, c'est dynamique et tout, hein, et c'est là aussi pour nous booster, c'est là aussi pour nous fortifier. Mais est-ce qu'on le pense? Est-ce qu'on apprend à laisser Dieu nous apprendre à marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, et à vivre ce qu'on chante, à vivre ce qu'on dit dans nos prières communautaires, individuelles. Amen. Je tente de vous interpeller vraiment ce matin. Jérémie, jusqu'au bout, n'a pas renié le Seigneur. Il a continué à agir comme le Seigneur voulait qu'il agisse. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a prophétisé pendant 40 années sans voir quoi que ce soit, ce qui probablement nous sera pas notre cas. Hein. Probablement ça sera pas notre cas. Nous, le Seigneur, voilà, à un moment donné, il arrive, il vient et voilà. Mais Jérémie, ça a été son cas. Il n'a pas été comme les autres prophètes. Les autres prophètes, au moins, ils ont pu voir des choses. Élie a vu des choses. Le prophète Ésaïe a vu des choses. Le prophète Jean-Baptiste a vu beaucoup de choses. Il a vu le Seigneur de gloire. Mais Jérémie, lui, rien du tout. C'est un prophète qui ne s'est pas marié. C'est un prophète qui n'a pas eu d'enfant. C'est un prophète qui, à un moment donné, n'avait plus d'amis. C'est un prophète qui était seul. Et le Seigneur a fait exprès de le briser comme ça pour qu'il soit l'image de ce qu'Israël allait vivre. C'est costaud quand même. Hein. Mais jusqu'au bout, il a servi le Seigneur dans la fidélité, dans la sincérité, dans l'amour, en comptant sur Dieu. Amen. Est-ce que ce matin, nous pouvons nous lever pour prier ensemble? Peut-être qu'il y a des personnes là, ce matin, qui vivent des moments difficiles, des moments où peut-être vous avez besoin aussi que d'être soutenu au niveau de la prière. J'aimerais qu'on puisse prier. Et juste avant, justement, d'arriver à ce moment de prière, j'aimerais vous partager un chant pour ceux qui n'étaient pas là hier. En plus, c'est le même chant. Il s'agit d'un chant qui est basé sur le psaume 46. Je voudrais que vous puissiez, je sais pas si on a les paroles. On n'a pas les paroles, c'est dommage. Psaume 46, enfin, c'est pas, c'est le début qui est en fait, bon. On peut mettre quand même le psaume 46 pour le lire. Je vais inviter les musiciens, les chanteuses. Je voudrais que vous puissiez méditer sur les paroles, puisque en fait, c'est un chant de méditation. J'expliquais hier que c'est un chant que j'ai écrit, je sais plus en quelle année exactement, mais peut-être en 2015, quelque chose comme ça. Où je m'étais retrouvée, sans entrer dans les détails parce que ça serait trop long, dans une épreuve immense où justement j'avais l'impression de ne plus pouvoir sortir de ce noir, de ce lieu rempli de ténèbres, où je me demandais mais où est Dieu? Où est Dieu? Et que veut-il? Qu'attend-il de moi? Pourquoi permet-il que dans ma tendre jeunesse, un peu comme Jérémie, parce que j'étais très jeune, 17 ans aussi, il puisse permettre que je vive tout ça. Méditons sur ce chant.
Dieu est pour nous un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent et que gronde la tempête, il est présent. Dans la crainte et la faiblesse, dans la peine et la misère, il demeure l'ami fidèle, garde l'espérance. Dieu est pour nous un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu jamais dans la détresse. Si tu le cherches d'un cœur sincère et que tu invoques son nom, il entendra ton appel, il est vivant. Confie-toi en l'Éternel, le Dieu de compassion. Ses bontés se renouvelle, il t'aime. Il t'aime. Il est le Dieu fidèle qui agit encore. Son nom est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ne crains pas dans ce combat, sur ses ailes il te portera. Ne doute pas de son amour et sa fidélité. Ses promesses sont certaines, il te donnera sa paix. Il est le Dieu qui vit de toute éternité. Ne crains pas dans ce combat, sur ses ailes il te portera. Ne doute pas de son amour et sa fidélité. Hey, ses promesses sont certaines, il te donnera sa paix. Il est le Dieu qui vit de toute éternité. Hey, vie de toute éternité. Ouais, il vit de toute éternité. Il vit de toute éternité. Il vit de toute éternité.
Est-ce que ce matin vous pouvez le déclarer avec nous? Est-ce que vous pouvez proclamer qu'il vit de toute éternité? Ensemble.
Il vit de toute éternité. Alors ne crains pas, car il vit de toute éternité. Crois en lui, il vit de toute éternité. Ses promesses se renouvellent chaque matin. Il vit de toute éternité.
Il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant.
Il vit de toute éternité. Il vit de toute éternité.